Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Boussouma. Tout de suite, le sommaire. Nouvelle tension depuis hier soir à Kirumba et ses environs dans le Lubero, Nord Kivu. Elle oppose des policiers à la population locale. Tout est parti du lynchage d'un présumé voleur des motos non loin de Kirumba. Bilan des échauffourées, 5 morts et une dizaine de blessés. Le passage de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine a suscité notamment un afflux des investisseurs intéressés par la RDC. Ceci ressort de la conférence débat d'hier à Kisangani, animée par le professeur Ntumba Luaba, coordonnateur du panel chargé d'accompagner le chef de l'État congolais à la présidence de l'Union africaine. Et puis, l'invité de ce midi, Mathieu Alimassi, ministre provincial du Sud Kivu, chargé des transports, voies de communication et tourisme. Il nous parle des défis à relever pour la réalisation du projet de rénovation du poste frontalier à arrêt unique Ruzizi 2 dans la ville de Bukavu, projet au centre des discussions ici à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. 5 personnes, dont 4 taximens moto, ont été tuées par balles et une dizaine d'autres blessées. C'est le bilan d'une nouvelle tension qui règne depuis hier soir dans la commune rurale de Kirumba et ses environs. Nous sommes dans le sud du territoire de Lubero. Le lynchage d'un présumé voleur de moto est à la base des échauffourées entre les policiers et la population. Ce dimanche, toutes les activités sont paralysées à Kirumba et la circulation sur la nationale numéro 2 qui mène vers Goma est perturbée grâce à Amzati nous raconte.
Tous répartis de l'arrestation d'un présumé voleur des motos à Miobwe, une entité très proche de Kirumba. Voulant s'échapper sous la complicité des policiers, la population en colère a brûlé vif ces présumés voleurs, révèle Kambere Bonane, président de la société civile locale. Les policiers ont tiré des coups de feu pour disperser les manifestants. Dans la foulée, 2 motards ont été atteints par balles et sont morts sur les coups à Miobwe, ce qui a fait éclater les échauffourées entre policiers et conducteurs des taxis-motos. Les policiers auraient encore tiré à bout portant sur 2 autres conducteurs qui sont également décédés cette fois-ci à Kirumba. La société civile parle des 11 blessés graves qui sont admis aux soins de santé. Le bourgmestre de Kirumba, qui confirme ses bilans, parle également des 6 maisons des policiers ainsi que 3 bureaux administratifs incendiés. Un minibus en direction de Butembo a été brûlé. 2 militaires qui étaient à bord ainsi que les chauffeurs ont été brutalisés par les manifestants, ajoute l'autorité communale. Ce dimanche, les activités socio-économiques sont restées paralysées dans la zone. Les manifestants ont érigé des barricades sur la voie publique, perturbant ainsi la circulation sur la route nationale numéro 2 qui mène à Goma, rapporte et le bourgmestre de Kirumba, Butembo, grâce à Amzati, Radio Kapi.
La MONUSCO condamne l'attaque vendredi dernier d'un convoi de véhicules des transports en commun à Luna Kabrik, au sud du territoire d'Irumu en Ituri, attaque qui a coûté la vie à 8 personnes, selon des sources sécuritaires. « Nous n'allons pas baisser les bras face à l'ennemi, quel qu'il soit », a dit le responsable de l'information publique de la mission onusienne en Ituri. Jean-Tobi Okala réitère l'engagement de la MONUSCO, celui d'appuyer les efforts du gouvernement congolais pour la sécurisation des usagers de cette route d'intérêt capital. Jean-Tobi Okala est au micro de Ezekiel Mouzalia.
Nous n'allons pas baisser les bras car ce serait une capitulation face à l'ennemi. La MONUSCO a un mandat reçu du Conseil de sécurité dans le cadre de la protection des civils. Et ce mandat, nous l'exécutons chaque jour malgré les nombreux obstacles que nous rencontrons. Nous restons déterminés à combattre tous les rebelles, quels qu'ils soient. Et cette lutte, nous la faisons en appui à nos partenaires des FARDC. L'ennemi utilise en effet toutes sortes d'astuces, n'est-ce pas, pour continuer à semer la mort et la désolation. Nous restons donc activement engagés dans cette lutte et ne reculerons au point devant ces attaques.
Toujours en Ituri, une centaine de familles d'Ourio dans le territoire de Mahagi se disent victimes des tracasseries à répétition de la part des militaires ougandais qui font des patrouilles chaque semaine dans cette localité frontalière. Le dernier cas remonte à mardi quand ces soldats ougandais ont arrêté 5 jeunes Congolais qui ont été relâchés jeudi et cela après paiement d'une amende. Selon l'autorité coutumière locale, ces militaires affirment que ce village fait partie intégrante de l'Ouganda. Ce chef coutumier plaide pour la résolution de ce conflit des limites frontalières entre la RDC et l'Ouganda pour la sécurité de ses administrés. Le point avec Clarisse Zindula.
C'est depuis environ une année que ce conflit de limite entre l'Ouganda et la RDC persiste dans cette zone, déclare le chef de Warpalara dans le territoire de Mahagi. Cependant, ce conflit s'est amplifié ces derniers jours où les militaires ont intensifié les menaces sur la population d'Ouryo qui abrite plus de 100 familles. Il précise que l'armée ougandaise a installé une de ses bases à 2 km du village d'Ouryo et font des patrouilles chaque semaine dans la partie congolaise. À leur passage, ils arrêtent des jeunes qui sont relâchés moyennant le paiement d'une amende. Le mardi dernier, ils ont appréhendé 5 jeunes. Ils ont recouvert la liberté 48 heures après en payant 80 $ d'amende. Jean-Faustin Nipirtoal indique que cette situation empêche la population de circuler et d'évacuer librement à ses occupations.
Puisque là, les Ougandais arrivent, ils arrêtent les Congolais. Ils disent que non, cette partie-là, c'est l'Ouganda. C'est l'armée ougandaise. Le problème qui est là, c'est quoi? Il y a une confusion de l'ennemi entre les Congolais et l'Ouganda. À tout moment, ils embêtent les Congolais là-bas. À tout moment, nous avons exprimé les députés congolais. Maintenant, on attend que l'équipe de la démarcation.
De leur côté, les députés provinciaux élus du territoire de Mahagui, qui condamnent cette situation, disent mener des plaidoyers auprès des autorités congolaises pour une harmonisation avec le gouvernement ougandais au sujet des limites frontalières entre ces deux pays. Nous n'avons pas réussi à joindre les autorités militaires locales à ce sujet. Bounia, Clarisse Zeindoula Eka, Radio Okapi.
Direction la province de la Tchopo. La vulgarisation des activités du panel chargé d'accompagner le chef de l'État congolais à la présidence de l'Union africaine, c'est l'objet d'une conférence débat tenue hier à l'Alliance française de Kisangani, conférence animée par le coordonnateur de ce panel, le professeur Alphonse Ntumba Luaba, était présent, le gouverneur intérimaire de la Tchopo, Maurice Abibu Sakapela, ainsi que plusieurs autres personnalités politico-administratives de la société civile et des étudiants. C'est un reportage de Jacques Moukonkolé.
Le président Félix Antoine Tshisekedi a orienté ses actions sur un certain nombre de piliers prioritaires, a affirmé le professeur Alphonse Ntumba Luaba. Mais qu'est-ce que le passage de Félix Tshisekedi à la présidence de l'UIA a rapporté au pays? Le professeur Alphonse Ntumba Luaba parle notamment de l'afflux des investisseurs intéressés par le Congo.
Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent venir. Ça va fournir de l'emploi jeune, avec l'économie verte aussi, les fonds bleus. Nous pensons que il y aura beaucoup d'ouvertures, il y aura des créations d'emplois et que, avec l'amélioration du climat des affaires aussi, la lutte contre la corruption, les investisseurs vont venir de plus en plus nombreux.
Le retour du pays sur la scène nationale et internationale est aussi un bénéfice à tirer de cette présidence, estiment certains participants, en l'occurrence Maître Pascal Elissingo et Marguerite Niki Imayonda.
Imaginez-vous la RDC qui a une superficie très très grande de la forêt, il n'avait pas un mot à dire à l'Union africaine. Ce n'est pas normal. Donc, ce retour-là sur la scène internationale au niveau africain, c'est déjà un pas de géant et on ne peut que féliciter le chef de l'État pour ce premier pas.
Après Kisangani, la même activité se poursuivra à l'est du pays. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Retour en Ituri. L'instauration d'un guichet unique de création des entreprises ainsi que la suppression des taxes qui empêchent les jeunes d'entreprendre des activités génératrices de revenus, telles sont quelques-unes des recommandations formulées par des jeunes à l'issue d'une conférence débat organisée hier à Bounia sur le dynamisme de l'entrepreneuriat des jeunes et femmes en Ituri. Cependant, la plupart d'entre eux déplorent le fait qu'ils ne bénéficient pas du soutien des autorités, une situation qui, selon eux, les plonge dans l'oisiveté. Le compte-rendu de Ezekiel Mouzalia.
Plus de 500 jeunes, dont des étudiants des différents établissements universitaires, ont pris part à cette conférence sur les défis qui bloquent l'émergence des jeunes en Ituri. C'est par exemple le défi sécuritaire ou encore la multiplicité des taxes qui les décourage à créer des activités génératrices de revenus ou des entreprises de transformation. Ces jeunes plaident pour la création à Bounia d'un guichet unique de création des entreprises qui, selon eux, pourra leur permettre de se conformer aux exigences légales.
J'exhorte les gouverneurs à nous aider à amener les guichets uniques de création des entreprises à Bounia, les Gucci.
Les femmes dépensent presque 80% de leurs revenus pour le bien-être familial. Alors ce sont ces femmes-là qui créent des entreprises.
Le développement entrepreneurial est un développement solidaire, rétorque de son côté le professeur Godefroy Kizaba, chargé de l'entrepreneuriat au sein de la présidence de la République. Il dit prendre acte de ses revendications afin de les soumettre à qui des droits pour permettre aux jeunes de se prendre en charge. Godefroy Kizaba.
Le développement de l'entrepreneuriat devient un développement solidaire. Au sujet des taxes, j'ai noté, nous sommes là pour les aider, pour les accompagner.
Signalons que cette activité a connu la participation des autorités militaires, des députés et ministres provinciaux, ainsi que des leaders des structures des jeunes dans la province de l'Ituri. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Entre-temps, ici à Kinshasa, la Foire internationale des entrepreneurs s'est clôturée hier. Les associations villageoises d'épargne et de crédit, avec en sigle, devraient avoir des facilités d'accès au crédit à travers leur coopérative. C'est le plaidoyer mené par l'un des intervenants, Serge Bahati, dans son exposé qui a porté sur le financement des projets des jeunes et les apports agricoles. À la clôture de la Foire internationale des entrepreneurs, il a indiqué que ces crédits leur permettront d'avoir une meilleure production agricole. Serge Bahati est au micro de Michel Kifindangoy.
L'intervention a porté sur les apports agricoles, plus précisément ma petite contribution sur l'économie agricole en mettant un accent particulier sur la capacitation mais aussi la facilitation d'accès au crédit pour permettre aux AVEC, communément appelés les associations villageoises d'épargne et de crédit, de pouvoir avoir accès à un niveau de production qui pourrait les permettre de capturer une valeur ajoutée, plus précisément à travers les coopératives. Et on a mis un accent particulier sur notre innovation, ce qui est la disposition des stockages pour permettre justement de pouvoir non seulement avoir un meilleur placement des aliments à des différents marchés qui se retrouveraient dans les alentours de notre zone de production, mais bien évidemment aussi passer à l'étape de la transformation pour pouvoir tirer avantage aujourd'hui de l'import-export et pouvoir apporter le produit agricole congolais sur l'assiette de tous les citoyens du monde.
Par ailleurs, le ministère congolais des petites et moyennes entreprises a ouvert hier une série de rencontres économiques avec des jeunes entrepreneurs de la RDC. C'est pour une vulgarisation des actions du gouvernement retenues pour la promotion de l'entrepreneuriat à travers le pays. Après avoir présenté leurs initiatives pour une transformation de l'économie de la RDC dans divers secteurs, notamment le numérique, le mining, l'agriculture, l'industrie culturelle et créative, un groupe d'une vingtaine de jeunes entrepreneurs ont été informés des opportunités et accompagnés qui s'offre à eux à travers le ministère des petites et moyennes entreprises. Écoutez à ce sujet le ministre de l'Entrepreneuriat et des PME, Maître Eustache Mwandi, dans cet extrait choisi par Billy Van Lutumba.
Pour donner la chance aux fils et aux filles de notre pays et de contribuer à la production et de jouir de ses richesses, le gouvernement de la République, à travers mon ministère, entend agir suivant trois actions majeures suivantes. La première action, le gouvernement a le devoir de susciter l'esprit entrepreneurial dans le chef de toute la population congolaise. La deuxième action est d'encourager. Cette thématique concerne les personnes disposant déjà de leur entreprise afin de leur faciliter l'accès aux mécanismes d'accroissement de leur chiffre d'affaires, notamment à travers de nouveaux contrats et de nouveaux partenaires. La troisième action, c'est accompagner. Dans le meilleur du monde, toute action humaine est incertaine à cause des dimensions de l'inconnu, de la contingence et des limites diverses. C'est pourquoi il est judicieux d'accompagner les entrepreneurs, même prospères.
Rendons-nous à Goma. Le bâtonnier du barreau du Nord Kivu invite les justiciers au respect de la notion du tiers telle que stipulée dans le système OADA, car selon lui, cette notion ne s'écarte pas totalement de celle des droits communs dont elle tire son origine. Dans son discours lors de la cérémonie de la rentrée judiciaire hier, Maître Abbé Lintumba a émis un plaidoyer auprès de la Cour d'appel du Nord Kivu, celui de créer un site où toutes les décisions prises après les jugements pourraient être postées. Ceci servira, dit-il, aux avocats, magistrats et juges de référence et les aidera à rendre un bon service aux justiciables. Le bâtonnier Abbé Lintumba du barreau du Nord Kivu s'explique dans ses propos recueillis par Mathieu Ilunga.
Pour le développement aux azimuts de notre pays, je lance un vibrant appel aux avocats et aux magistrats d'être des étudiants perpétuels. C'est de cette manière seulement que nous pouvons servir et être utiles à notre nation. Les juges s'abstiendront donc de porter atteinte au patrimoine des personnes tierces en violation de la loi. Pour éviter cela, tout avocat ainsi que tout magistrat doit suivre une formation continue et obligatoire pour la sauvegarde des intérêts des justiciables. Ils doivent renoncer à la routine qui constitue la robe dangereuse du paresseux et une atteinte grave aux droits et aux intérêts de la société. Un avocat ou un magistrat qui ne se forme pas, il est pire et il doit être mis hors d'état de nuire à la société en le déchargeant de ses fonctions. Le barreau est à la recherche de partenaires pouvant l'aider à créer un site de publication de toutes les décisions de justice. Une telle publication servira d'auto-interpellation pour les auteurs de décisions qui mériteront d'être sanctionnés, soit positivement, soit négativement, chacun ne pouvant s'en prendre qu'à lui-même.
Actualité internationale.
Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'ouvre ce dimanche à Accra, au Ghana. Il est consacré à la situation en Guinée et au Mali, où des militaires ont pris le pouvoir via un coup d'État, parmi les enjeux d'éventuelles sanctions ciblées ou économiques. Marche mondiale pour le climat, des rassemblements aux quatre coins de la planète, de Glasgow en Écosse à Sydney en Australie, en passant par Londres en Angleterre, Mexico ou encore Nairobi au Kenya, alors que la COP26 achève sa première semaine des travaux, des dizaines de milliers de personnes sont descendues hier dans la rue un peu partout dans le monde. Selon la coalition COP26, plus de 300 actions ont eu lieu à travers le monde samedi 6 novembre pour dénoncer l'aggravation du dérèglement climatique et le manque d'ambition politique pour y faire face.
L'invité.
Il s'agit du ministre provincial du Sud Kivu chargé des transports, voies de communication et tourisme. Mathieu Alimasi Malumbi évoque les défis à relever pour la réalisation du projet de rénovation du poste frontalier à arrêt unique Ruzizi 2 dans la ville de Bukavu, projet qui a été au centre des discussions hier à Kinshasa et qui, selon lui, nécessite l'implication des fils et filles de cette province. Mathieu Alimasi s'entretient avec Jean-Désiré Kanyama.
Monsieur Alimasi Malumbi, Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Que faut-il attendre par le projet de rénovation du poste frontalier à arrêt unique Ruzizi 2?
C'est un projet intégrateur. C'est un projet qui réunit des pays, donc le Rwanda ainsi que la RDC, particulièrement la province du Sud-Kivu.
Ça signifie concrètement quoi en termes simples?
En termes simples, c'est la construction du poste frontalier. C'est la construction des infrastructures, les bâtiments. C'est la construction du parking, des grands véhicules qui viennent de la Tanzanie, du Rwanda et ailleurs, ça va stationner par là. Et là, nous aurons un espace, un grand espace, pour juste garer les véhicules et juste les commerces aussi transfrontaliers.
Quel sera, selon vous, l'impact socio-économique d'un projet comme celui-là?
Je disais tout à l'heure que notre population va traverser aisément la frontière et la province aura des infrastructures. Ça, c'est un impact très visible.
Qu'est-ce qui explique que rencontre à Kinshasa avec les élus, notamment sénateurs et députés, et avec le gouvernement central?
Notre présence à Kinshasa, c'est question d'adhérer. Adhérer les fils et filles de Bukavu, du site Kivu. C'est-à-dire, nous voulons l'inclusivité. Inclure tout le monde, que tout le monde contribue à ce projet-là pour la réussite totale. Alors, il faudrait que toute la population, toutes les couches, ainsi que les notables du site Kivu qui sont en dehors de Bukavu, soient informés correctement de ce projet-là.
Quel sera concrètement la contribution de ces notables du site qui vous vivez à Kinshasa?
Il y a encore beaucoup à faire dans ce projet-là. Nous avons le site et nous voulons que ce site soit disponibilisé. Le bailleur a donné le fonds, c'est l'Union européenne qui a disponibilisé le fonds. Et nous voulons que nous aussi, comme pays, comme gouvernement, nous disponibilisons le site à ce que le travail avance correctement. Et avec la présence, la contribution de tout un chacun, les notables du site qui sont ici à Kinshasa, ils doivent aussi s'impliquer à ce que nous puissions rapidement accéder à ce site-là et que le travail avance rapidement.
Est-ce qu'on peut savoir, l'Union européenne a financé ce projet à quelle hauteur?
C'est dans l'hauteur de 8 millions de dollars. L'argent est là, l'argent est disponible. L'argent est disponible de notre partenaire Trademark Est Africa, c'est lui qui dispose l'argent.
Ah, autrement dit, ça veut dire que c'est Trademark Est Africa qui va réaliser les travaux?
Exactement, c'est notre partenaire Est Africa, et Trademark Est Africa, avec lui on va réaliser ces travaux.
Qu'est-ce qui fait que les travaux ne commencent pas maintenant?
Ne commencent pas, c'est juste la disponibilisation du site. Le site est là, c'est un site qui est habité, il y a des gens qui sont dans ce site-là. Mais il faut que les gens quittent le site pour permettre à ce que les travaux puissent commencer. Et pour que les gens quittent le site, il y a des préalables. Notamment, il faut que le site doit être déclaré d'expropriation. Donc, le ministère foncier doit donner un arrêté pour ça. En deuxième lieu, il faut que la population ne doit pas quitter comme ça. La population doit être indemnisée. Et puis, les délocaliser, les montrer à un autre endroit où cette population doit vivre paisiblement. C'est à ce niveau-là que tout un chacun doit porter sa pierre à l'édifice, la contribution des notables du site qui
vaut. Vous avez une idée sur ce que représente cette indemnisation? Ça va coûter combien?
Exactement, l'indemnisation, ça va dans les 5 millions et quelque chose de dollars.
Donc, il faut mobiliser 5 millions de dollars.
C'est ça notre raison de notre présence ici à Kinshasa, pour que cet argent, les 5 millions de dollars, soient disponibilisés et permettre à notre population de les délocaliser et de trouver un autre endroit où la population doit vivre paisiblement.
Vous n'avez pas frappé à la porte du gouvernement?
gouvernement central pour avoir ce montant qui est quand même colossal que peut-être l'on ne saura pas réaliser?
Non, il faudrait commencer par ça. Il faudrait commencer par les notables de la province du Sud-Kivu. Ensemble avec eux, on verra, au cours de cette réunion, on va prendre des dispositions utiles, des stratégies, et qui va nous permettre à toquer d'autres portes.
Donc c'est un processus qui va continuer.
Exactement.
Alimasi Malumbi Mathieu, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie très sincèrement.
Le ministre provincial du Sud qui vous chargeait des transports, voies de communication et tourisme était avec Jean-Désiré Kanyama. C'est la fin de ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga, supervision de Ben Kabamba, la mise en onde de Dieudonné Nyangasa et devant ce micro, Belinda Bosuma. Retrouvez-le sur notre site www.radiokapi.net. Merci.